Bien, merci déjà d'être là pour cette table ronde sur la fin du monde. Il y a déjà eu des cafés littéraires, des rencontres littéraires sur ce sujet-là, pas des cafés littéraires, des rencontres, hein, sur ce sujet au cours des Imaginales. Il faut dire qu'on est en 2012 et que tout le monde nous promet la fin du monde pour bientôt. Alors, je ne sais pas si vous étiez hier sur un des débats littéraires où on nous expliquait que certaines personnes croient tellement à la fin du monde qu'elles sont prêtes à s'endetter pour acheter se faire construire des abris, se disant que de toute façon, même si elles s'endettent, c'est pas grave, puisque après décembre 2012, elles n'auront pas remboursé. Ça montre bien quand même qu'il y a des absurdités qui sont en train de fleurir et que la notion de fin du monde impressionne toujours et à toute époque. D'ailleurs, il y a eu l'an 1000, il y a eu des tas de moments où on a parlé comme ça de fin du monde. Mais là, aujourd'hui, la thématique, c'est la fin du monde, la fin d'un monde. Et pour en parler, nous avons trois auteurs où, a priori, quand on regarde les sujets abordés, on ne voit pas tout de suite la notion de 2012, la fin du monde, ni d'apocalypse. Et là, ce n'est pas parce qu'un jour vous avez parlé de Nostradamus que vous êtes là, mais Jean-Philippe Despotes a travaillé enfin, présente un roman qui se passe dans le cadre de la Commune de Paris. Donc tout à l'heure, vous nous expliquerez un peu le lien, comment vous voyez enfin, l'histoire et le lien peut-être avec la fin du monde, la fin d'un monde. Nous avons également Muriel Zucker, pour qui le monde qu'elle nous présente, c'est un monde dans lequel le bonheur est obligé. Nous sommes obligés, soyez heureux, sinon, point de salut. Ça paraît super. Oui, mais généralement, on se rend compte à nouveau qu'il y a une recherche comme ça de quelque chose qui est parfait. Et oui, le petit sourire en coin veut dire beaucoup de choses. D'après moi, ça se passe pas si bien que ça.
Ça réserve quelques surprises.
Et enfin, Ellie Anderson, dont les personnages sont en mesure de contrôler, d'essayer de contrôler ce qui se passe à l'intérieur du corps, de visiter le corps. Et on recherche un corps bien contrôlé, parfait. Et là, pareil, il y a des surprises. Et on va voir quel est le lien entre ce sujet et la fin d'une illusion, la fin d'un monde. Donc, vous voyez, nous sommes relativement loin de la notion de fin du monde façon 2012. Néanmoins, il y a à chaque fois une relation à un idéal qui prend fin. Donc, je vous laisse déjà parler, Jean-Philippe, de la commune et de ce qui s'y passe.
La fin du monde, oui. Donc mon histoire, déjà en deux mots pour planter le décor. Donc, on suit quelqu'un qui s'appelle Lucien Bell, qui est un personnage fictif, mais qui est un jeune provincial qui est engagé dans l'armée en 1870, au moment de la Grande Guerre contre la Prusse, et qui se retrouve, malgré lui, parmi le contingent qui va être chargé d'aller confisquer aux Parisiens les canons de la butte Montmartre, hein, qui sont les canons que les Parisiens ont payé de leur denier lors du siège de Paris pour se défendre contre les Prussiens. Mais le gouvernement français, la toute jeune république d'Adolphe Thiers, craint que l'esprit révolutionnaire des Parisiens s'échauffe un peu trop et que ces canons se retournent contre l'État. Donc, ils envoient un contingent confisquer ses canons. Le pauvre Lucien Bell, malgré lui, fait partie de ses soldats et va se retrouver donc au premier jour de la Commune de Paris, 18 mars 71, et va être mêlé à ces événements qui vont complètement le dépasser. Et en plus, il va se prendre une balle dans la tête au premier jour de la Commune. Il va se réveiller dans un hôpital, l'hôpital de la Pitié, au milieu de Paris, et il va donc être un peu piégé dans la Commune de Paris. Il va traverser toute la Commune. Et donc, pour revenir au thème de la fin du monde, ce qui m'intéressait avec ce point de vue particulier, c'est que le personnage principal est quelqu'un de très naïf, qui est très jeune, qui est provincial, qui a aucune éducation, qui connaît rien du tout à tout le passé idéaliste révolutionnaire des Parisiens, et qui va malgré ça devoir comprendre ce qui se passe autour de lui à travers tous les événements de la Commune. Et avec une certaine naïveté et un certain pragmatisme, il va en fait simplement regarder ce qu'il y a autour de lui et avoir une vision complètement débarrassée de toute idéologie et devoir se rendre compte qu'après coup, beaucoup d'historiens ont vu, c'est le fait que la Commune de Paris était perdue d'avance et que quasiment dès le premier jour, il y avait ce sentiment de fin inéluctable qui arriverait plus ou moins rapidement et au final qui arrivait au bout de 7 semaines avec 30 000 morts et la fin de l'écrasement de la Commune dans le sang. Et donc moi, ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est de montrer cet contingent confisquer ses canons. Le pauvre Lucien Bel, malgré lui, fait partie de ses soldats et va se retrouver donc au premier jour de la Commune de Paris, 18 mars 71, et va être mêlé à ces événements qui vont complètement le dépasser. Et en plus, il va se prendre une balle dans la tête au premier jour de la Commune. Il va se réveiller dans un hôpital, l'hôpital de la Pitié, au milieu de Paris. Et il va donc être un peu piégé dans la Commune de Paris et va traverser toute la Commune. Et donc, pour revenir au thème de la fin du monde, ce qui m'a intéressé avec ce point de vue particulier, c'est que le personnage principal est quelqu'un de très naïf, qui est très jeune, qui est provincial, qui a aucune éducation, qui connaît rien du tout à tout le passé idéaliste révolutionnaire des Parisiens, et qui va malgré ça devoir comprendre ce qui se passe autour de lui à travers tous les événements de la Commune. Et avec une certaine naïveté et un certain pragmatisme, il va en fait simplement regarder ce qu'il y a autour de lui et avoir une vision complètement débarrassée de toute idéologie et devoir se rendre compte qu'après coup, beaucoup d'historiens ont vu, c'est le fait que la Commune de Paris était perdue d'avance et que quasiment dès le premier jour, il y avait ce sentiment de fin inéluctable qui arriverait plus ou moins rapidement et au final qui arrivait au bout de 7 semaines avec 30 000 morts et la fin de l'écrasement de la Commune dans le sang. Et donc moi, ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est de montrer cette ambiance délétère dans les rues de Paris, du peuple de Paris, qui, contrairement à ce qu'on peut penser, n'était pas du tout unanimement soulevé par les idéaux révolutionnaires, et que, par exemple, lors d'une élection en plein milieu de la Commune, où des sièges étaient libres, étaient vacants à l'Assemblée de la Commune, il y a eu des élections partielles, et il y a eu 80% d'abstention à Paris, c'est-à-dire que 80% du peuple de Paris ne s'est même pas déplacé pour aller voter les membres de la Commune. Donc il y avait bien une majorité du peuple parisien qui quelque part adhérait aux idéaux de la Commune de très loin et de façon très naïve, mais qui avant tout essayaient de protéger leur maison et fabriquer des barricades, mais aussi pour protéger leur famille et pas forcément pour protéger la Grande Révolution, le Grand Soir et la sociale. Donc c'est ça que j'ai voulu montrer, et voilà cette espèce de bourdon qui monte et que les personnages et que beaucoup de gens à Paris, je suis persuadé, sentaient monter et avec une espèce de limite d'instinct suicidaire, quoi, de sentir la mort qui approchait et pour laquelle il ne pouvait rien faire.
Oui, donc, je ne sais pas s'il marche, c'est bien. Si c'est bon comme ça. Et finalement, non, il ne marche pas celui-là, je ne crois pas.
On peut pivoter celui-là.
Oui, donc, il y a quand même une impression. On sait que c'est perdu d'avance, donc est-ce que vous pensez que dans les ambiances comme ça de fin du monde, il y a comme ça des traits de caractère ou des comportements qu'on retrouve et qui n'existeraient pas autrement? Quand on sait que c'est perdu d'avance, est-ce qu'on est capable de faire des choses différentes? Est-ce que ça se ressent sur l'ambiance générale? Des choses très générales, même peut-être en dehors de la Commune, hein?
Oui, certainement, bien sûr, ça exalte en fait toutes les pas les pulsions, mais les traits de caractère à l'extrême. Et par exemple, moi, il y a une période de la Commune qui me fascine, qui est décrite dans quelques ouvrages historiques. Hein, c'est les quelques jours qui ont précédé, qui ont suivi les premiers jours de la Commune, donc le 21-22 mars. Donc la Commune venait juste d'être proclamée. Au moment où au moment du premier jour de la Commune, quand l'armée française s'est retirée sur Versailles, et quelque part les Parisiens avaient gagné, ils ont proclamé la République de Paris indépendante de la France. Donc il y a eu une grande joie, des grandes fêtes, voilà, tout le monde a bu, tout le monde a fait la fête. Et puis en fait, quelques jours après, il y a eu une espèce de période où les gens étaient groggy, marchaient, et c'est décrit dans des courriers de l'époque, hein, qui décrivent une espèce des fantômes dans les rues de Paris, des gens qui se demandaient ce qu'ils allaient faire, quoi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a gagné, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Et donc après, ça a été suivi, ça a été pris en main, il y a eu une organisation. Mais moi, cette petite période-là m'a intéressé, justement, où... Un peu paradoxalement même, il y avait les fameuses classes sociales qui étaient contre lesquelles voulait lutter le mouvement révolutionnaire qui avait créé la Commune, étaient un peu mélangées, parce qu'il y avait à la fois les bourgeois et les petits commerçants et les gens du peuple qui se baladaient côte à côte dans les rues de Paris, qui se demandaient un peu ce qui allait se passer, quoi. Ils observaient, parce que personne n'avait prévu l'événement, c'est venu de façon spontanée en réaction à cette fameuse confiscation des canons, et voilà, ils se sont demandé ce qui... Et donc, voilà, effectivement, ces périodes-là exaltent des situations un peu particulières où les gens vont complètement être déracinés de leur terreau habituel. Hein.
Mm-hmm. Alors, ce flottement dont vous parlez, là, cette période d'errance, comme ça, des gens sont... Est-ce que ça signifie que ces révolutions-là et ces fins de monde, elles se font parfois sans aspiration particulière pour le futur ou quoi? C'est juste pour casser ce qui s'est passé avant, dont on ne voulait plus, mais sans qu'il y ait de projection vers le futur, parce qu'on a l'impression que c'est ça. Ils ont obtenu ça, puis finalement, ils ne savaient pas trop quoi en faire.
C'est ça, pour la Commune de Paris, il y avait quand même un passé, je dirais, théorique. Hein, il y avait Auguste Blanqui, il y avait Proudhon, et le fait qu'on avait théorisé la Révolution, et il y avait Marx... mais par exemple, je commence mon bouquin avec une citation de trois lignes de Marx qui prévoit en septembre 70, donc 6 mois plus tôt, et qui annonçait que s'il y avait une révolution à Paris, parce qu'on la sentait venir quand même, ça allait être un échec. C'était couru d'avance. Et donc Marx a écrit ça 6 mois avant la Commune de Paris. Et Marx a toujours gardé ses distances avec la Commune de Paris parce qu'il savait que ça allait échouer. C'était pas assez préparé, quoi. Et par contre, du point de vue des gens, donc les gens qui ont pris le pouvoir, les membres de l'Assemblée de la Commune, il y avait ce côté, ce romantisme révolutionnaire qui faisait qu'ils suivaient quand même un idéal, mais quand même, ils ne s'y attendaient pas quand même. Quoi. Ils ne s'y attendaient pas que ça arrive à ce moment-là. Et de manière générale, la Commune de Paris, c'est un drame de l'impréparation, quoi, et de l'improvisation. Et voilà, on parlera ensuite sans doute du non pas de la fin d'un monde, parce que là, il y a un côté fin du monde, parce qu'il y a eu 30 000 morts quand même, et c'est pour beaucoup, pour ces 30 000 personnes, ça a été la fin du monde. Mais aussi, il y a la fin d'un monde en sens d'un monde, d'un idéal politique, quoi, qui pour beaucoup s'est effondré ce jour-là, enfin, cette semaine plus tard.
Peut-être... on va voir un peu les autres univers, peut-être Muriel.
J'enchaîne avec, oui, avec l'idéal politique.
Voilà, avec l'idéal, voilà, évoqué, l'idéal, la vie parfaite.
Précédemment, effectivement, moi, la trilogie du tourneur de page repose sur une idéologie. C'est une projection des enjeux du monde d'aujourd'hui, dans l'avenir, notamment les enjeux écologiques, qui font que le monde ne peut plus continuer à perdurer avec l'activité humaine telle qu'elle existe. Et un homme en tire la conclusion, et une conclusion idéologique, sauf qu'elle ne reste pas au niveau d'une idée, puisqu'il va la mettre en œuvre. Il estime qu'il faut retirer les hommes du monde, de manière à les enfermer comme dans une sorte de zoo, et préserver d'une part la Terre, qui aura la capacité de se régénérer hors activité humaine, mais également préserver la diversité humaine. Et pour cela... Il met en œuvre un système qui permet d'avoir un maintien des différentes couleurs de peau, donc un genre d'apartheid, non pas idéologique, mais là, biologique, dans l'espoir de conserver la diversité des différentes couleurs de peau humaine, et les enfants éventuellement nés d'union, qui sont à ce moment-là baptisés par le terme de contre-diversité, sont éliminés. Et également une volonté de créer une énergie qui soit complètement propre et spécifique à cette bulle. Et cette énergie provient des émotions des différentes personnes qui l'habitent. On capte l'émotion, les mauvaises émotions, les émotions très fortes, pas de mauvaises et de bonnes, mais les émotions très fortes des différents individus de manière à pouvoir faire fonctionner cette bulle-là. Et donc il y a des règles extrêmement strictes qui existent. Et pour compenser la perte de liberté, on sait bien qu'une perte de liberté inévitablement va induire une frustration, on l'évoquait tout à l'heure. Pour compenser cette perte de liberté, eh bien, il faut réduire le libre arbitre de manière à ce que les personnes qui habitent n'aient pas la capacité à analyser le fait qu'ils ne sont pas si heureux que ça. Et c'est cette perte de libre arbitre qui va être mise en place grâce à la manipulation des souvenirs et grâce à la manipulation des émotions. Et toute cette projection donc, des enjeux d'aujourd'hui dans un monde de demain complètement idéalisé par un homme qui veut tourner la page et qui veut créer quelque chose, un monde nouveau, donc qui fait suite à la fin du monde précédent, parce que la fin du monde, ça ouvre tous les possibles vers un autre monde. Tous ces enjeux-là sont donc mis en place et ça dessine la trame de fond. C'est évidemment pas le récit lui-même, mais à partir de là, dans ce cadre-là, évoluent les personnages de frères dont l'un disparaît, est effacé des souvenirs, etc. Et là, le récit qui peut démarrer. Mais la trame de fond, cette projection des grands enjeux d'aujourd'hui dans un univers peut-être proche.
Bon, en fait, on retrouve un peu le propre de toutes les utopies de ne pouvoir survivre qu'à la condition de tuer le libre arbitre, d'avoir des individus qui sont parfaitement maîtrisés, des individus parfaitement contrôlés et qui ne laissent plus place à l'imaginaire. D'ailleurs, les imaginales, ça devrait être le haut lieu de subversion dans un n'importe quel...
Vous seriez tous enfermés.
Oui, ça y est, vous êtes fichés.
D'ailleurs, on vous attend à la sortie du... Faites attention, passez par la porte de...
Il y avait l'autre jour une intervention de Boris Cyrulnik à la télévision sur l'utopie et qui expliquait que les personnes qui étaient les plus visées dès qu'on voulait mettre en place un système utopique, c'était les psychologues et les artistes. Donc la place de l'imaginaire et la place du libre arbitre qui était complètement détruite. Mais pour revenir à cette notion de contrôle, on peut passer à Oscar Peele et donc le livre d'Eli Anderson. Et ce monde, pareil, on voudrait bien le contrôler, ce corps. Hein, chaque fois qu'il nous arrive un petit pépin, on aimerait bien être tous parfaitement...
Alors avec Oscar, c'est un peu moins fin du monde que ce qu'on a pu entendre et tout. Alors je vais essayer de m'y raccrocher quand même. Je vois que Carole est là.
Elle essaie de nous mettre dans la fin du monde.
Et c'est fort de sa part d'ailleurs.
Non, dans le contrôle.
Absolument.
Voilà, surtout le contrôle des...
Mais je crois que la fin d'un monde, c'est aussi un nouveau regard sur un monde. C'est la fin d'une vision qu'on avait d'un certain monde. Or là, voilà, alors c'est pas la fin d'un monde dans Oscar Peele, c'est plutôt un... c'est la déconstruction d'un monde pour le reconstruire autrement. C'est-à-dire que Oscar est un adolescent qui vit dans une petite ville, finalement sans trop d'histoire. Dans son histoire personnelle, ça a été un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'il vit avec sa mère et sa sœur un peu fantasque. Il a perdu son père avant sa naissance. Et il va apprendre finalement qu'il a hérité de son père un pouvoir extraordinaire. C'est celui de voyager dans le corps humain. Il est Médicus, en fait. Il fait partie d'un ordre secret qui est celui des Médicus et qui ont ce pouvoir d'aller dans le corps. Mais dans le corps, ce n'est pas du tout... Et c'est là, c'est peut-être la fin d'un certain monde pour lui. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout ce qu'on lui a appris à l'école ou ce n'est pas du tout ce qu'on nous apprend nous-mêmes. C'est-à-dire que dans ce corps, il y a 5 univers. Et ces univers sont faits de peuples, de montagnes, d'océans, de cités extraordinaires, de guerres, de complots, d'amis, d'ennemis, d'amour. Voilà. Donc c'est un regard différent, et surtout il va, et là on peut plus penser à une fin du monde, comme Carole le disait, c'est en matière de contrôle du corps, c'est-à-dire qu'il va être opposé aux ennemis absolus de l'humanité, qui sont les pathologus. Les pathologus sont là pour créer des maladies tout à fait incontrôlables par la science actuelle, et il Ils vont essayer d'ailleurs de faire selon l'univers, ils vont essayer de maîtriser ce corps et de l'assujettir complètement et de mettre l'humanité un peu à genoux, parce que finalement, quand on découvre cet univers intérieur, ce monde intérieur à l'intérieur du corps, on se rend compte que ça a un retentissement sur tout le reste, sur notre monde extérieur bien sûr. Donc ils vont essayer d'assujettir l'humanité en entrant dans le corps et en créant et en uniformisant les choses et surtout en maîtrisant ce monde. Voilà. C'est la fin d'un monde, c'est quand on commence déjà à le maîtriser, c'est ce que Carole nous disait tout à l'heure et ce dont on parlait avant de venir ici. Et Oscar, lui, est là pour porter un nouveau regard aussi. C'est la fin d'un monde, c'est le monde qu'on a pu lui enseigner à l'école, c'est le corps qu'on a appris, nous autres médecins, parce que je suis médecin, oui. Et plus beaucoup de patients avec ce que j'écris, mais enfin bon, on peut le comprendre, parce que si je les soigne comme Oscar soigne les corps humains à l'intérieur, c'est moins rassurant, je peux comprendre. Mais voilà, donc c'est finalement la fin d'un monde, ça peut être la fin d'une vision qu'on a du monde, et la fin du monde, c'est peut-être lorsqu'on veut absolument et de façon obsessionnelle le maîtriser, le contrôler, mais avoir une mainmise dessus.
Alors là, concernant le corps qui devrait être contrôlé et la possibilité de contrôler l'intérieur du corps, est-ce que vous avez la vision, là, en tant que médecin, que l'intérieur du corps est un univers en soi et que du coup, il y a des guerres politiques, il y a des choix politiques qui peuvent être faits. Est-ce qu'on peut avoir d'un côté un corps qui fonctionnerait avec un régime marxiste
totalitaire,
totalitaire.
Regardez, pauvres gens qui sont au régime tout le temps, c'est du totalitarisme.
Voilà, mais par exemple.
À mort les régimes. Vive la révolution. Mais alors, non, c'est vrai que on peut imaginer, oui, qu'on alors, dans ce corps, moi j'ai toujours vu ça comme quelque chose de. C'est pas la fin d'un monde pour moi, parce que moi tout petit, je voyais le corps comme ça. Moi j'étais convaincu que les reins, le foie, tout ça, c'était des histoires pour nous adormir debout, et qu'à l'intérieur, il y avait vraiment des océans très profonds, des montagnes, des peuples, des cités. Je trouvais ça formidable. Je découpais les insectes petits pour m'en assurer. Non, pour mes parents, ça n'a pas été facile. Je peux le reconnais, je t'ai bien le dire. Et puis voilà, quand j'ai voulu m'assurer que c'était la même chose dans les corps humains, que j'ai voulu commencer à découper, on m'a dit « va faire médecine, mon garçon, ce sera quand même mieux ». Mais finalement, oui, c'est la médecine a une forme de regard unique et assez formaté sur le corps humain, et j'avais envie que ce soit autre chose. Et je crois qu'effectivement, si dans le corps humain, il y a, comme je continue à le croire, ces univers d'une grande richesse, avec des peuples différents, avec des règles de société différentes, avec des conflits possibles, avec des guerres, avec tout ça. Ça veut donc bien dire qu'on a une richesse intérieure qui est encore plus forte peut-être qu'à l'extérieur. Et il y a sans doute moins de chances de fin du monde à l'intérieur parce que c'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus varié et c'est plus tolérant peut-être.
Alors il y a une très, très chouette exposition qui a été réalisée il y a 2-3 ans par l'INSERM en partenariat avec Bernard Werber et la maison Jules Verne, le musée Jules Verne à Nantes, qui a mélangé des images justement du corps humain, mais des images de...
D'anatomie pure.
Non, pas d'anatomie, plutôt de microscopie, de bactéries.
Oui,
enfin oui. Et avec des gravures de Jules Verne. Et avec la même légende, donc, de voyage extraordinaire, de découverte de nouveaux mondes, et avec un texte romancé écrit par Bernard Werber. Donc, ça ressemble beaucoup à la
Absolument.
Vision donc, que vous avez du corps humain. Et est-ce que vous pensez qu'un jour, en médecine, on enseignera cette cartographie du corps humain ?
Alors, si parmi vous il y a des étudiants, je leur déconseille de suivre les préceptes d'Oscar pour vos examens, ça c'est sûr, en médecine. Vous risqueriez d'avoir quelques petits soucis avec votre doctorat, mais non, je pense que ce qui est important et pourquoi j'ai voulu voir ce monde différent, j'ai voulu finir avec ce monde anatomique pur et déconstruire et en construire un autre, c'est parce que je me suis rendu compte combien on pouvait avoir peur de notre propre corps. Combien on avait du mal à se l'approprier, et combien, surtout quand on est jeune, on peut être terrifié par ça. Et quand j'ai créé Oscar, c'était pour répondre à un de mes jeunes patients qui j'étais interne en cancérologie et en oncologie pédiatrique, et un jeune adolescent qui ne voulait pas sa chimiothérapie, qui en avait extrêmement peur. Et je me suis mis à raconter l'histoire d'Oscar pour lui dire, voilà, c'est pas aussi terrifiant que ça le corps, ça veut pas dire qu'on peut tout contrôler, tout maîtriser, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et heureusement, mais on peut s'approprier son corps, en faire un élément d'exploration, de découverte, et faire en sorte qu'on soit dans son corps assez bien, c'est-à-dire être bien dans son corps comme dans ses baskets. Parce que sinon, c'est des choses qu'on peut se traîner nous-mêmes, ensuite adultes. On peut traîner des casseroles pendant des années et des années parce que les choses ne se sont pas bien faites quand on était plus jeune. Donc, c'est plutôt ça. Je ne suis pas sûr qu'en médecine, on finisse par nous enseigner ça. C'est un peu dommage. Peut-être qu'on s'approprierait le corps de façon différente et qu'on accepterait du coup les éléments de science tangibles plus facilement. Mais c'est pas grave, voilà, la littérature et les imaginales sont là pour nous offrir ça. Et puis, il y a la faculté de médecine pour le reste.
D'accord.
Allez-y quand même, hein, c'est bien quand même. Hein. Ils disent pas que des choses fausses.
Non. Non, mais ça, c'est l'avantage quand même de la littérature et de la culture imaginaire, c'est de donner sans cesse un regard différent sur ce qui paraît certain.
Bien sûr.
Peut-être le risque que l'on a assez souvent, c'est de présenter des vérités figées qui, là, peuvent bloquer, peuvent empêcher d'avancer. Alors, je ne sais pas, par rapport à ce côté vérité figée, là, j'aurais une autre question, c'est un peu... par rapport à l'histoire, vous prenez des libertés, quand même, par rapport... alors, je ne sais pas... dans ce livre-là, il est quand même assez réaliste, assez historique, assez renseigné, mais il y a d'autres moments où vous prenez des libertés. Est-ce que vous pensez que ça permet quand même de mieux appréhender la réalité historique, de faire ce pas de côté et de la regarder? Parce que vous avez un personnage qui existe, enfin qui a un personnage de roman.
Oui, donc en fait, habituellement, moi, les romans que j'écris sont des romans qui mêlent la littérature fantastique avec le roman historique. Et donc, je plonge des histoires plus ou moins fantastiques, plutôt moins dans l'histoire de Lucien Bell, mais quand même un peu, dans un contexte historique. Ensuite, par rapport à la réalité, si on s'éloigne un peu du sujet...
Oui. Non, mais c'était parce que c'était un moment qui...
Mais j'assume. On va... oui, en fait, moi, quand j'écris ce roman, je sortais de mon roman sur Nostradamus, hein, qui était vraiment un jeu sur ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et c'était pour moi une espèce de... Ce que j'ai cherché à faire, c'est du Philippe Dick au XVIe siècle, quoi. Un Philippe Dick historique. Et en fait, donc, je sortais de mes interrogations sur ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et je me suis rendu compte, justement, que dans un sujet très historique comme la Commune de Paris, on joue en permanence là-dessus. Parce que cette période historique est tellement chargée d'un romantisme politique et d'un idéal, d'idéal révolutionnaire, que même aujourd'hui, pour beaucoup de gens, sauf les historiens scrupuleux, mais pour beaucoup de gens... on voit jamais la réalité de ce qu'a été la Commune. Mmh. On la voit toujours à travers un filtre idéologique. Et moi, justement, j'ai écrit ce roman pour essayer de montrer la vision de quelqu'un excessivement ou naïf à l'excès et qui allait montrer justement cette Commune un peu plus caméra à l'épaule, quoi. Et pour reboucler avec le thème de la fin du monde. Pour sortir de l'idée de cet idéal révolutionnaire qui, de toute façon, menait dans le bon sens et qui aurait été repris par des révolutions futures, mais qui a été écrasé dans le sang par les armées versaillaises, je voulais montrer aussi que, vu de l'intérieur, et la Commune elle-même, comme utopie, n'était pas applicable, c'était trop tôt, c'était mal fagoté, et que dès 3-4 semaines, c'est-à-dire on était en plein milieu, ça a duré 7 semaines, par exemple, l'Assemblée de la Commune a délégué tous ses pouvoirs à un comité de salut public, hein, de 5 personnes, et donc c'est devenu une dictature, et on a interdit la presse, et on n'en parle pas souvent, mais la Commune était déjà en train de très mal tourner au bout de 4 semaines. Alors bien sûr, tout ça a été écrasé dans le sang 3 semaines plus tard, donc maintenant on peut revoir ça avec nos lunettes idéalistes, le grand soir et la sociale. Mais c'était pas sur la bonne route, hein, et ce qu'avait vu Marx avant le démarrage. Et donc, en ça, il y avait une espèce de fin annoncée, même de l'intérieur, quoi, parce que on parle de fin du monde, mais je suis persuadé de ça, c'est que la Commune de Paris était mécaniquement partait de Guingois et la fin de la Commune de Paris n'était pas forcément uniquement dans l'écrasement militaire qu'elle a connu.
Mmh. Et bah, quelques décennies, non, ça, je crois que ça ne marche pas, non, vraiment, j'ai attendu un peu. Mais... Quelques décennies plus tard, il y allait y avoir donc, les révolutions en Russie communistes. Est-ce que, bon, elles ont duré plus longtemps, mais est-ce qu'il y avait les mêmes travers de début de la fin à l'intérieur? Mais dans ce cas-là, je crois qu'on pourrait voir le début de la fin dans quasiment tous les systèmes.
Mais je... voilà. Oui, ça sort un peu de mon propos, mais... et je n'irai pas jusque-là. Mais
je ne sais pas.
C'est... Mais, en fait, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai écrit ce livre-là un peu en réaction justement à un romantisme politique que j'ai souvent du mal à comprendre, parce que je suis un peu plus pragmatique, et montrer que même si... voilà, que c'est pas être contre la Commune de dire ça et de montrer ça et de suivre un personnage qui est fondamentalement, qui adhère aux idéaux de la Commune, enfin, ou qui apprend à y adhérer parce qu'il les connaît pas au début et puis il les découvre, mais qui malgré ça a un œil très critique et qui voit tous les travers et ces filtres qui l'empêchent de voir. Et donc des filtres qu'évidemment on a retrouvé dans les révolutions qui ont suivi, que ce soit bien sûr la révolution russe, mais même des phénomènes comme mai 68, hein, mm-hmm. qui ont mené à beaucoup d'excès parce que simplement on ne voyait pas la réalité, parce qu'on la voyait à travers un filtre idéologique très fort, qui est le moteur qui permet à l'événement de se produire, mais qui aussi quelquefois l'amène trop loin dans des directions qui ne sont pas souhaitées.
Muriel, tu veux...
Oui, moi je pense effectivement, je rejoins ce que tu dis aussi sur le fait que fin du monde, ça peut être la fin d'une vision du monde. Et pour faire le lien donc avec le tourneur de page, moi je m'étais posé la question de savoir si jamais un jour un gouvernement avait la capacité de détenir les cartes mémoire, peut-être dans la tête des sujets de Médicus, je ne sais pas, mais la carte mémoire des différents citoyens, avec la capacité donc de manipuler les souvenirs, d'effacer des personnes de manière à ce que les proches oublient ces personnes-là, qu'est-ce que ça pourrait donner si on est en révolte contre un gouvernement, mais qu'aussitôt on efface toutes les idées de révolte? Ça n'a plus de sens, et ça stoppe inévitablement la possibilité de changer le monde et d'être là d'aller vers un nouveau monde. Et là, la fin du monde, elle n'arrive jamais. Et dans cet ouvrage, donc il y a deux frères qui vivent sous cette bulavre fermée, et l'un des deux contrevient aux différentes règles édictées parce qu'il dessine. Or, le dessin, évidemment, matérialise ce qu'on peut avoir comme souvenir, donc c'est absolument interdit, et il dessine, il est surpris plusieurs fois, il dessine une fois de trop, et donc il est enlevé et effacé des mémoires. Donc ses parents ne se souviennent plus de lui, ses profs, ses voisins, etc. Sauf son frère, sur lequel le dispositif n'a pas fonctionné, qui se rappelle de lui. Et cet effacement, c'est la fin d'un monde, c'est la fin d'un regard sur le monde, parce qu'on s'aperçoit que tout peut être manipulable, on peut enlever comme ça des gens, on peut, et c'est bien la fin d'un monde. Donc le frère, après, bien sûr, va partir à la recherche, démonter les rouages, comprendre comment tout cela fonctionne, sortir de ce monde de manière à pouvoir trouver des alliés et se faire une idée réelle du monde tel qu'il est.
Alors, il y a un point qui me semble intéressant. C'est le lien entre la fin d'une façon de penser et l'effacement de la mémoire. Donc même si on passe à autre chose, il y a quand même une continuité. Et ici, ce qui est terrible, c'est que visiblement, ils cherchent même à casser ce lien temporel, comme si chaque instant était entièrement neuf. Donc ça, par rapport aux révolutions diverses, c'est un peu pareil. Des fois, on voudrait complètement tourner la page, mais c'est pas possible, il reste toujours quelque chose, il y a toujours... on ne peut pas effacer, on voit bien dans les révolutions culturelles qui ont été imposées, on a cherché à gommer le passé. Il y a quand même.
Les livres.
Oui, c'est les livres. Oui, c'est le fameux adage.
Alors, je ne sais pas. Oui. Oui, là, ça, c'est peut-être plus
en, fait, en lien avec. Oui, en fait, par exemple, Adolphe Thiers, donc, qui était le premier président de la République, mais donc qui était le chef des Versaillais et qui a écrasé la Commune, a écrit noir sur blanc que sa volonté, c'était de tuer l'idée révolutionnaire à Paris. Donc, ce n'était pas de tuer les révolutionnaires,
oui,
c'était tuer l'idée révolutionnaire. Donc, il a tué sans discernement tous les Parisiens, enfin 30 000 d'entre eux. Et ceux qui restaient, il les a envoyés en Nouvelle-Calédonie pour longtemps à casser des cailloux. Et donc, d'une certaine manière, il y a réussi. Mais effectivement, dès le lendemain de la Commune, Karl Marx a tout de suite utilisé les événements de la Commune comme étendard pour exalter le courage des Parisiens et pour se servir de ce... Alors que lui-même disait 6 mois plus tôt que c'était voué à l'échec, mais bon, il avait l'esprit pratique, et donc tout de suite, il a utilisé ça pour justement remotiver ses troupes et lui organiser bien plus efficacement les révolutions suivantes. Donc, en quelque sorte, pour ça, c'est pour les révolutions communistes en général, la Commune de Paris n'a pas du tout été une fin du monde et a été utilisée à bon escient. Mais enfin, pour les Parisiens eux-mêmes et ceux qui ont fait cette révolution-là, ça a été sacrément la fin du monde.
Mais au niveau du regard de l'histoire, il y a toujours un avant et un après. Et quelles que soient les révolutions, il y a toujours un lien qu'on ne peut pas casser complètement. Alors, pourtant, ça a été des essais. Hein. Enfin, partout, on a essayé de
alors, quelque part, on peut se rassurer comme ça. Mais justement, moi, mon point de vue dans ce roman-là, c'était plutôt de prendre le point de vue des gens qui étaient là. Quoi. De me dire, les idées révolutionnaires, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est les braves gens qui fabriquaient leur barricade devant leur maison parce qu'ils avaient simplement peur que leur appartement brûle. Et c'est vraiment ces gens-là que côtoie Lucien Bell, et c'est leur histoire qu'il va raconter. Et comment, quelque part, ils font l'histoire, ils rentrent dans l'histoire en passant à côté de toutes ces idées-là et en n'étant pas du tout conscient que leur exemple va servir après dans des révolutions futures.
Pour revenir peut-être à des sujets... Alors, je pensais, je voyais ces individus qui étaient là à essayer de survivre, de trouver leur place. Et je voyais un peu l'analogie avec des systèmes dans le corps où on cherche à peut-être se dire telle cellule a envie de survivre, quitte à créer des pathologies plus générales, ou inversement... On accepte de sacrifier à certains endroits. Alors là, qu'est-ce qu'en pense le médecin? Est-ce que tu vois des analogies ou...
Voilà. Là, ça se passe effectivement dans le corps humain. On sait que le corps humain, c'est une machine qui... mais là, c'est la machine. C'est plus l'univers romanesque. Donc, c'est moins drôle, hein, mais c'est vrai que ça se passe comme ça. Ça se passe réellement comme ça. Il y a une vraie... économie de la vie au sein du corps humain. C'est-à-dire que le corps sait qu'il va falloir... C'est comme certains arbres, vous savez, qui vont abandonner certaines branches au profit d'autres, en sachant qu'on ne pourra pas... le corps humain fait un petit peu la même chose, et de toute manière, il y a une vraie organisation, hiérarchique dans les organes, il y a une organisation presque de société avec qui fait quoi et jusqu'à quel point, et quand on n'en a plus besoin, on n'en a plus besoin, et on élimine des cellules, et voilà. Et ça se fait d'ailleurs sans la maladie. Ça se fait au contraire pour survivre, et pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir continuer à exercer la fonction qu'on doit avoir quand on est un foie, quand on est un rein, quand on est un os. Voilà, donc ça se passe effectivement comme ça. Maintenant, je pense qu'il y a moins d'idées, il y a bien une chose qui ne doit pas y avoir, dans le corps humain, c'est l'idée révolutionnaire. Ça, je crois qu'il y en a très peu. Là, les médecins s'en sont chargés parfois, ou les chirurgiens même. Oui. Ou alors des gens un petit peu moins bien intentionnés, qui ont commencé en pensant qu'ils allaient être médecins, puis finalement ils se sont dit, on va être psychopathe à la place, c'est vachement mieux. Et donc, ils ont créé des choses très très sympathiques de cet ordre-là. Et puis, On utilise les gènes, on utilise les cellules, on monnaie les corps, on fait des choses comme ça. C'est encore une autre question, c'est encore une autre révolution. Hein.
Alors, il y a une série de nouvelles d'Étienne Klein qui s'appelle « L'atome au pied du mur », où il imagine, il prend des tas de théories de l'atome et les applique pour en faire des nouvelles, des histoires. Il en a une où un corps humain est composé d'atomes qui sont de droite et d'atomes qui sont de gauche. Et il y a des élections, ou du moins, non, je crois que les atomes sont plutôt de gauche, mais d'un seul coup, le corps commence à vouloir voter de plus en plus à droite, et les atomes se révoltent contre le corps à chaque fois qu'il veut voter, contrairement à leurs propres idéaux.
Ah, si on devait rapprocher ça du corps, je pense qu'au sein d'un même organe, c'est très... la collectivité passe avant l'individualisme dans un organe. En revanche, entre les différents organes, là, c'est plus individualiste. Là, je pense qu'il y a un organe qui est prêt à bouffer l'autre. Mais enfin,
plus
vous
les
savez, on appelle ça, il y a des phénomènes, des systèmes qu'on appelle le vol sanguin. Par exemple, lorsque des organes ont besoin de travailler beaucoup plus, ils vont capitaliser le sang et au détriment des autres organes. Et les autres organes le savent. Ça veut dire que quand vous déjeunez, par exemple, copieusement, votre intestin, qui est composé de mètres d'intestin et qui a besoin d'une circulation sanguine très forte, va voler. C'est un phénomène de vol sanguin vers l'intestin. Il y en a moins pour le cerveau et c'est pour ça que vous êtes un petit peu comme ça. Vous savez, comme lors de certaines conférences, on s'ennuie un petit peu. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe après, lors de la digestion. On est un petit peu fatigué, on a un petit coup de pompe à cause de ça. Donc voilà, c'est un petit peu pour ma pomme. Selon les moments et selon les organes. Mais au sein d'un organe, en revanche, c'est un pour tous. Alors, et tous pour un, plutôt.
Il y a quand même dans le corps un dérèglement politique, entre guillemets, hein, en prenant cette analogie. Les maladies auto-immunes, où les cellules se retournent contre... Pour moi, c'est des révolutionnaires.
Alors, plus que des révolutionnaires, il y a des anarchistes.
Oui.
Ça s'appelle les cellules cancéreuses.
Oui, ça c'est.
Voyez-vous, c'est elles mangent tout, elles dévorent tout, elles n'ont plus de règles. Les règles qu'on avait imposées sont pas pour elles.
Et elles refusent de mourir.
Elles se déploient et se multiplient à l'infini et au détriment de tout ce qui passe. Donc on dévore pour grossir et pour exister.
Et c'est la fin de leur monde après, parce que ces cellules, elles meurent.
À la toute fin, c'est-à-dire
qu'elles luttent
pour leur suprématie et pour leur hégémonie, puisque c'est vraiment ça. Elles vont disséminer partout dans le corps, elles vont dans des organes où elles n'ont pas à aller normalement, ça s'appelle les métastases. Ouais. Et puis un jour, elles finissent par tuer la Terre dont elles ont tant pompé les énergies et les ressources.
C'est des dictateurs totalitaires et aveugles.
Surtout aveugles, c'est pas très intelligent.
Non,
le cancer n'est pas très intelligent, ça, je dois vous le dire, je vous l'avoue, le cancer n'est pas intelligent. C'est comme ça. Les virus le sont plus.
Mais donc Muriel, ce sera un peu une structure presque cancéreuse, enfin quoi qu'ils utilisent quand même très bien l'énergie des autres... pour continuer à survivre, oui. Là, dans votre...
C'est-à-dire que comme il m'a... De manière à ce que toutes les personnes soient heureuses dans ce monde privé de liberté, privé de libre-arbitre, il manipule les émotions. Toutes les émotions négatives sont supprimées. Non seulement il manipule les émotions, mais en plus, ils vont créer des situations qui, théoriquement, doivent générer et déclencher de très violentes émotions. Ils vont enlever des enfants, des parents, donc qui doivent normalement générer une très forte émotion. Mais comme cette situation est aussitôt effacée des souvenirs, les personnes continuent à vivre tranquillement, de manière heureuse, je mets de gros guillemets, mais continuent leur routine de vie. Mais à la fin de la vie, des individus assez anticipés, puisque c'est vers 40 ans, 50 ans à peu près que ça se passe, les personnes dites en fin de vie se voient réintroduire tous les souvenirs réels de leur vie. Y compris ces enlèvements, y compris ces situations douloureuses qu'elles méconnaissaient puisqu'elles n'étaient pas inscrites dans leur mémoire. Et en revivant ces souvenirs, les décharges émotionnelles sont telles que ça provoque une énergie, ça crée une énergie colossale qui permet à cette bulave où vivent le reste de l'humanité, qui permet donc à cette bulave d'être autonome en énergie. Et une énergie propre, je remets des guillemets, une énergie propre, puisqu'elle n'est pas pompée ou elle n'est pas prise aux dépens de la régénération de la Terre. Donc l'idéal du tourneur de page est bien latent, puisque l'homme vit sur la Terre, mais pas aux dépens de la Terre. Et donc, ce n'est pas la fin du monde. C'est la garantie que la fin de ce monde n'arrivera pas. Mais à quel prix ?
Est-ce que c'est aux dépens de l'homme, enfin de l'être humain, puisque j'imagine qu'une décharge émotionnelle si violente, ça doit être ravageur dans un corps. Donc, est-ce que ça les tue ? Est-ce que ça les...
Absolument. Donc, c'est la fin de la vie parce que ces souvenirs sont passés en boucle jusqu'à ce que la capacité à réagir soit réduite à néant parce que la personne est épuisée et effectivement en meurt. Et c'est toute la question de savoir est-ce que on peut sacrifier une personne, un individu ou quelques personnes pour le bien-être de toute une population. Ça pose toutes ces questions. Sur l'avenir, comment faire fonctionner. Est-ce que tu parlais tout à l'heure du fait que les organes pouvaient soit s'opposer, soit au contraire, quand il y en avait une partie un petit peu en difficulté, avoir un geste solidaire de manière à pouvoir maintenir en état de fonctionnement l'organe. C'est toutes ces questions qui se posent aujourd'hui, qui se poseront demain et qui se posent tout le temps, qui interviennent quand on commence à parler de fin du monde, de fin d'un monde et surtout d'un monde nouveau, parce que la fin d'un monde, ça, pour un romancier en tout cas, la fin du monde, c'est se dire qu'est-ce qu'on fait demain, comment est-ce qu'on fait pour éviter que ce soit la fin, ou qu'est-ce qu'on fait demain pour créer le nouveau.
Alors, moi j'ai aussi une question par rapport aux personnages de ce monde-là. Est-ce qu'ils ont conscience qu'ils vont mourir? Est-ce qu'ils ont conscience du temps qu'il leur reste à vivre? Est-ce qu'ils ont un instinct de survie?
Est-ce que je peux compléter? Est-ce qu'ils ont conscience de ne plus avoir d'émotion? Est-ce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'émotion? Est-ce qu'ils savent ce que c'est l'émotion?
Alors, il existe des émotions, mais mineures. C'est-à-dire que la manipulation des émotions se fait...
J'ai très faim. C'est ça.
Voilà.
Je veux faire pipi.
Voilà, je ne sais pas si c'est une émotion.
Si, ça peut en être.
C'est une réaction du corps, c'est sûr. Donc, il existe des émotions. Mais par contre, toute situation qui générerait une émotion trop forte est manipulée. Donc, est-ce qu'ils ont conscience d'avoir une vie... d'avoir une fin de vie probable? Oui, puisque c'est annoncé, c'est un passage qui est normal. On arrive après une certaine période de vie, on passe dans un lieu idyllique, formidable, qui s'appelle un lieu de l'espace de fin de vie, où nous attendent beaucoup de bonheur, beaucoup de soins particuliers. Et donc, c'est une situation qui est très attendue. Après, est-ce que la notion de fin de vie est apparentée à la notion de la mort? Ça, c'est moins évident. Quelle image se font les habitants de la fin de vie et le parallèle avec la mort, enfin, la connexion inévitable?
Ils savent que cette avalanche d'émotions va leur va survenir
pas.
Dans
non.
cette zone-là?
Non, non. Donc
c'est là-bas que ça se passe?
Oui, c'est là-bas que ça se passe.
Ça donne envie, cette affaire.
Ça rappelle un peu la fin de vie dans Soleil Vert, quand on leur projette des images magnifiques. Et bon, voilà, on sait ce qui les attend, quoi. Ouais.
Sauf que la réalité est un peu différente.
Oui.
Aussi, ce qui est parce que je suppose que l'histoire finit mal, enfin, en tout cas, ça a l'air... En tout cas, le projet de société a l'air de...
D'être un peu mal engagé.
D'être un peu mal engagé, oui. Mais ça amène à penser ce qui... Alors, je ne suis pas un spécialiste de la littérature de l'imaginaire, mais j'ai l'impression que dans toutes les utopies qui sont présentées en littérature... Ça finit toujours mal, en fait. Hein. Ouais. Et quelque part, est-ce que cet imaginaire des écrivains qui décrivent des utopies et le devenir des utopies vient pas, quelque part, de l'exemple qu'ils ont pu avoir dans la réalité historique, où effectivement on a énormément de ce type d'utopie, et en fait, dès qu'on appelle ça une utopie, c'est qu'on a conscience dès le départ que c'est un peu un rêve et que ça marchera pas. Et que c'est un peu ce qu'on a rencontré.
Sinon, on appelle ça un projet.
J'ai l'impression que dans la littérature, c'est souvent ça, quand les utopies finissent mal. Ou si on appelle ça le progrès.
C'est pour ça qu'il faut mettre aussi un peu de rêve dans les livres. Hein. On a du rêve dans nos livres quand même. Hein. C'est pas... Il n'y a pas que de l'utopie et suicidaire.
Il y a encore quelques minutes, donc si vous voulez poser des questions ou si...
Avant la fin du monde.
Si ah bon, oui,
il nous reste 12 minutes avant la fin du monde.
Alors c'est vrai que la notion même d'utopie est passionnante, puisqu'à chaque fois ça a été utilisé, la littérature utopique, pour critiquer la société, mais tout en montrant les travers. C'est le style même de l'utopie, c'est pas quelque chose, c'est pas les romans à l'eau de rose, quoi, loin de là. Il y a toujours un grain de sable qui montre qu'on a besoin de différence, qu'on a besoin de liberté, qu'on a besoin de cette sorte de biodiversité. Je pense souvent à l'image de la monoculture du maïs, enfin du maïs ou de n'importe quoi. Vous prenez une culture quelconque, vous faites partout la même chose en espérant tout rationaliser. Résultat, c'est super fragile. Un petit virus vous détruit l'intégralité en un rien de temps, alors qu'un peu de non-contrôle permet de survivre.
Et ce qui est intéressant, c'est à quel point on a l'impression justement que les gens sont très conscients que c'est ce genre de société idéale qui sont très mathématiques, en fait, qui marche très bien sur le papier. Tout le monde sait très bien que ça ne marche pas, en fait. Dès qu'un écrivain commence à décrire ça, il décrit lui-même l'échec de ces sociétés-là, parce que quand elles sont confrontées au réel, forcément elles ne vont pas fonctionner, et que malgré tout, dans les quelques cas où des utopies de ce type-là ont été mises vraiment en marche dans le monde réel, on y a cru quand même. Et voilà, et ça, enfin, la commune en est un très bon exemple. Voilà, et même confronté à la réalité de ça, les gens y croient encore.
Je crois qu'il y a aussi une aspiration à une situation rassurante. Je pense par exemple au développement des résidences hyper sécurisées où des gens qui ont assez de moyens, voilà, s'achètent des maisons, ouais. Tout est clos, tout est fermé, on est certain que les enfants ne fréquenteront que les enfants du voisin qui lui aussi a le même mode de vie, le même niveau de rémunération, le même niveau culturel. Et en méconnaissant complètement la richesse des rencontres diversifiées qu'on peut faire et qui constituent la personne, qui constituent le citoyen, qui constituent la capacité à accéder à l'imaginaire. Et ça répond tout de même à une aspiration, je pense, peut-être secrète, mais en tout cas partagée par chacun, de protéger ses enfants et de mettre ses enfants dans une situation la plus utopique possible, la plus idyllique possible, en se mettant des œillères sur les conséquences potentielles que ça peut avoir.
Oui, bien sûr. Et par exemple, effectivement, on ne peut pas appeler ça une utopie, bien sûr, mais le sentiment révolutionnaire qui est né, effectivement, de réels problèmes qu'avaient les gens. Et vraiment, vrais problèmes de classe, et des vrais problèmes. C'était pas une volonté sortie de nulle part de vouloir organiser la société, bien sûr. Mm-hmm. Bien sûr. Mais voilà, justement, moi, ce qui m'intéressait, c'est plutôt voilà quelque part le mal qui peut être fait par une solution qui est inappropriée au problème qui est posé et qu'en fait au final on finit, puisque quand même notre société aujourd'hui, si on prend le cas de la France, va quand même beaucoup mieux qu'elle allait à l'époque de la Commune de Paris, qu'au final les solutions on les a trouvées de façon très pragmatique dans la vie de tous les jours, et que même si la révolution, ce type de révolution, la Commune de Paris, ont aidé à débloquer certains verrous de façon un peu violente. Au final, on peut, voilà, moi, mon point de vue un peu pragmatique, je rêve quand même qu'on ait pu y arriver en faisant l'économie de 30 000 morts, quoi.
Et pour trouver une réponse.
Parce que c'est justement ça qui est utopique, c'est de croire que ce qui s'est passé après la commune se serait passé sans la commune.
Oui, c'est intéressant.
Oui,
c'est
voilà, intéressant, ça c'est
une
vraie.
Le martyr chrétien, c'est ce qui a permis de déclencher.
Oui, mais à l'inverse, le mot de martyr est vraiment intéressant parce que il y a aussi ce phénomène-là qui me dérange beaucoup, quoi. Le fait qu'effectivement, comme je disais, les gens qui ont compris que la commune allait échouer, il y a eu dans les réactions, il y a eu pour un noyau et qui malheureusement avait les manettes en main. Une espèce de vraiment de volonté de martyr, quoi, et d'emmener tout le monde vers la mort parce que il valait mieux mourir que d'abandonner ses idéaux révolutionnaires. Et ça, c'est quand même une idée qui me gêne un peu, surtout quand on voit le nombre de femmes et d'enfants, par exemple, qui ont été massacrés pendant la commune, alors que ces problèmes-là leur passaient complètement au-dessus de la tête. Hein. Donc peut-être effectivement que la plus belle des utopies, c'est de pouvoir rêver que ce progrès-là aurait pu arriver sans révolution. Ouais.
Ou sans sacrifice au moins, sans la nécessité sacrificielle qu'on a qui semble devoir accompagner toujours ces gros changements. Il faut que certains se sacrifient, il faut que certains y passent et qu'il emporte avec lui dans la mort ce dont on veut se débarrasser. Mais c'est vrai que c'est pas nécessaire, mais c'est peut-être ça.
Mais c'est encore ce. Il faut toujours un héros. Et
absolument.
Le héros.
Ah non.
Oui, il est
au contraire, on peut s'y projeter, c'est formidable. C'est le nouveau héros, alors on va dire. Le nouveau héros survit, figurez-vous.
Mais il est de bon goût quand même que le héros qui se sacrifie soit volontaire et soit conscient de son sacrifice, qui était loin d'être le cas de tout le peuple de Paris.
Sinon, c'est plus de la tragédie, si on peut choisir d'être le seul.
C'est vrai que les victimes innocentes, enfin, c'est toujours un souci. Alors, on arrive à la fin de cette table ronde et je pense que ce qu'on a vu quand même, c'est que peut-être ce qu'on ne peut pas éviter, ce qui serait dommageable, c'est l'immobilisme. C'est imaginer qu'on aurait un bonheur figé qui serait parfait et sans doute que toute aspiration comme ça à cet immobilisme, c'est déjà la mort. Et que le fait d'avoir des fins du monde permanentes, abandonner sans cesse quelque chose, c'est ce qui va permettre le progrès, c'est ce qui permet d'avancer. Et l'imaginaire, la littérature de l'imaginaire, nous permet sans doute d'appréhender un peu mieux, d'accepter un peu mieux cette avancée, malgré les difficultés que ça implique.
Très juste. Merci en tout cas. Merci. Et merci à vous.
Merci à tous.
Merci beaucoup.
Voilà.
L'exercice n'était pas facile.
Non, bravo, je disais. C'est périlleux et c'est.